Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui proposent toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus, Yann Anthony Noguès.
Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens. Aujourd'hui, nous allons parler des extrémistes, avec évidemment cette poussée des populistes à travers l'Europe, l'Autriche qui pourrait bien se réveiller dans quelques semaines avec un président d'extrême droite, FPE, à sa tête cette semaine. Angela Merkel est sortie de sa réserve sur la vie politique française en disant qu'elle allait essayer de contribuer à ce que d'autres forces politiques soient plus fortes que le Front National en France, dans la mesure de ses possibilités. Évidemment, ça n'a pas du tout plu à Marine Le Pen. Le Parlement européen, on va en discuter, qui aurait accordé un financement européen d'un montant de 600 000 euros à un groupe européen d'extrême droite, néo-nazi. On va en débattre parce que le Parlement européen, c'est un lieu particulier. Il y a tous les 5 ans une sorte de vote défouloir de certains en Europe qui envoie les plus terribles crapules des 28 ici au Parlement européen. On en a interviewé certaines. On peut penser à ce néo-nazi grec Daube Doré qui loue les réformes sociales d'Hitler. Il est élu au Parlement européen. Il y a un représentant du parti néo-nazi allemand NPD qui lui s'est fait élire en appelant ses électeurs à mettre les gaz. Il y a une Hongroise du Jobbik qui est habituée à faire des sorties antisémites et ils sont ainsi de plus en plus nombreux à franchir la ligne rouge pour en quelque sorte nous habituer pour rendre le racisme plus acceptable. Bonjour Claude Rollin.
Bonjour.
Vous êtes eurodéputé PPE, Parti Populaire Européen. Votre famille politique en Belgique, c'est le CDA. Le Parlement européen est un petit peu aux avant-postes, j'ai l'impression. C'est l'institution qui reçoit en primeur ces énergumènes.
Oui, je ne dirais pas en primeur parce que malheureusement, dans les États nationaux, on voit aussi la présence de l'extrême droite. Je suis dans un pays, la Belgique, où l'extrême droite siège au Parlement. Ceci étant dit, on retrouve cela dans le Parlement européen parce que c'est vrai, souvent, l'élection européenne est une élection qui peut paraître à certains comme une élection défouloir, une élection qui n'a finalement pas une sensibilité d'avoir beaucoup d'importance. Mais on est là devant quelque chose qui est terriblement inquiétant. Cette montée de l'extrême droite, cette montée des intolérances. Et il est nécessaire d'y répondre. Je trouve que pour y répondre, il ne faut pas simplement se contenter d'avoir un discours critique par rapport à l'extrême droite, mais il faut aussi qu'au niveau de l'Union européenne, on fournisse des réponses qui correspondent à ce qu'attendent les citoyens. Parce que l'extrême droite mûrit, pousse sur un terreau des problèmes que les gens vivent.
Bonjour Manuel Abramovitch.
Bonjour.
Alors vous êtes un spécialiste des questions de l'extrême droite. Vous éditez un site internet en Belgique qui s'appelle résistance.be. C'est de plus en plus dur de résister.
C'est de plus en plus dur, mais surtout, ça fait longtemps qu'on résiste, et peut-être tant mieux. Hein. Moi, j'ai commencé dans le domaine à m'intéresser à la problématique de l'extrême droite fin des années 80, début des années 90, 90. L'extrême droite était déjà présente, hein, et c'est un peu un yo-yo. Il y a des périodes comme ça, historiques, et dans un temps court, hein, depuis une vingtaine d'années, où elle diminue, elle réapparaît. On pensait que le Front National en France allait disparaître lors de son clash interne il y a plus de 10-15 ans. On voit réapparaître avec Marine Le Pen, donc une nouvelle jeunesse. Au niveau européen, c'est également le cas. On peut juste se dire que ceux qui luttent contre les montées de l'extrême droite depuis plusieurs années, s'ils n'avaient peut-être pas été là, en France, peut-être Jean-Marie Le Pen, en 2002, serait passé au deuxième tour.
Bonjour Jean-Sébastien Lefebvre. Vous êtes aussi un spécialiste de ces questions-là, notamment, et puis aussi de la Pologne. On a rencontré, on va l'entendre au long de cette émission, Janusz Korwin-Mikke, qui est, comment on peut le décrire?
Ah, c'est une sorte d'extraterrestre de la vie politique polonaise, un personnage qui est déjà là depuis une vingtaine d'années, depuis le retour de la démocratie, il est présent, il se présente aux élections présidentielles, Et un de ses leitmotifs, c'est de dire, mais Hitler n'était pas au courant pour la Shoah, de remettre en cause l'égalité homme-femme, etc. Donc c'est, on n'a pas vraiment de comparaison possible dans la vie politique française. C'est un extravagant, un peu complètement fou, qui cède à plein de fantasmes sur l'histoire, qui remet en cause la réalité. Donc voilà, c'est, on ne peut même pas forcément classer l'extrême droite. C'est juste, voilà, une sorte de...
Est-ce que sous prétexte d'avoir été élu au Parlement européen, on peut tout se permettre, ce monsieur-là, par exemple, a fait récemment un salut nazi dans l'hémicycle pour lequel il a écopé d'une amende. Voilà, nous parlons de ces énergumènes extravagants de l'extrême droite au Parlement européen. Demandez le programme de 500 millions d'Européens pour réagir. Hashtag 500 ME. Alors je crois qu'il y a débat, hein. C'est une citation qui est attribuée à Voltaire. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je me battrai et je donnerai ma vie pour que tu puisses le dire. Est-ce que c'est valable dans ce cas-là? Le cas par exemple de Janusz Korwin-Mikke, qui est donc difficile à placer sur l'échiquier, mais en tout cas il est clairement très à droite dans l'hémicycle du Parlement européen. Il s'est fait remarquer le 22 mars, le jour des attentats ici en Belgique, en refusant de faire une minute de silence en hommage aux victimes, sous prétexte que c'est faire honneur aux terroristes que d'effectuer cette minute de silence, et qu'après tout, il dit, on ne fait pas de minute de silence pour les 25 personnes qui sont décédées sur les routes belges depuis quelques heures. Pourquoi on le ferait pour les gens morts dans ces attentats? C'est un négationniste aussi, il considère qu'Hitler, il considère qu'on n'a aucune preuve qu'Hitler était au courant pour la Shoah, pour l'extermination des Juifs, parce qu'en fait, c'est Himmler qui aurait tout organisé. On l'écoute.
Il n'y a pas de preuve qu'Hitler était au courant.
Voilà, la preuve par l'image et le son, selon lui, il n'y a pas de preuve. En plus de ça, ce monsieur est contre le vote des femmes. Il considère que les femmes ne devraient pas voter. Je lui ai demandé pourquoi, en montrant aussi son assistante et en lui disant, est-ce que votre assistante, est-ce qu'elle est d'accord avec ce que vous dites? Voici sa réponse.
Les femmes devraient avoir des privilèges car elles sont le sexe faible. C'est mon assistante, je ne lui demande pas son avis, mais vous savez, c'est typique. Vous avez le patron, qui est un homme, et l'assistante, la secrétaire, qui a meilleure mémoire. Les femmes ont meilleure mémoire que les hommes.
Voilà, les femmes ont une meilleure mémoire que les hommes, c'est pour ça qu'elles font bien le job, selon lui, en tant qu'assistant. Nous avons rencontré un eurodéputé socialiste belge, Marc Tarabella, qui fait partie de la commission du droit de la femme. Voici ce qu'il a à dire.
Je sais que lui, par exemple, voudrait que les femmes ne votent plus. C'était dans son programme, il est élu, il le dit. À nous de le combattre. Et ce sont des conneries, évidemment, qu'il raconte. Mais clairement, il a été élu. C'est la démocratie, il fait partie des élus polonais. Il y a quelques extravagants, dont lui, le pire. Mais il siège et finalement, il met en application les idées qu'il a proférées durant sa campagne.
Voilà, il siège, il met en application les idées qu'il a proférées durant sa campagne, Claude Rollin.
Oui, il y a deux choses. D'une part, effectivement, quand quelqu'un est élu, il doit pouvoir siéger comme parlementaire avec tout ce que ça veut dire. Ceci étant dit, dans ce Parlement européen, il y a des règles. Il y a des règles qui sont définies, notamment par un code des parlementaires. Il y a un statut du parlementaire, un règlement du Parlement, et qui met hors jeu, qui déclare en tous les cas qu'il n'est pas possible dans ce Parlement d'avoir des propos qui sont injurieux, des propos qui sont racistes, des propos qui ne cadrent absolument pas avec les valeurs fondamentales de l'Union européenne.
Mais alors quand il dit, Marc Tarabella, après tout, ce monsieur a été élu en disant qu'il voulait mettre fin aux droits des femmes. Au droit de vote des femmes.
Il a le droit de le dire et on ne peut pas le sanctionner en la matière. Par contre, quand il fait le salut nazi, quand il a des propos clairement racistes, il y a des dispositifs qui permettent de le sanctionner. Malheureusement, ces dispositifs sont uniquement des dispositifs financiers qui font en sorte que finalement, souvent, par exemple, quelqu'un comme Marine Le Pen, quand elle est sanctionnée, eh bien, s'en sert finalement de porte-voix pour mettre en évidence la parole honteuse qu'elle a.
Voilà, en fait, Janusz Korwin-Mikke, qui a qualifié notamment les migrants de déchets humains, qui a également fait un salut nazi, il a écopé d'une amende. C'est le comité d'éthique du Parlement européen qui lui a infligé notamment cette amende. 3000 euros. En fait, c'est l'équivalent de 10 jours d'indemnité de présence au Parlement européen, parce que les eurodéputés touchent en gros 6200 euros de salaire mensuel, plus 300 euros d'indemnité journalière, plus 4300 euros de frais généraux, etc. Et donc, finalement, on se rend compte, voilà, 3000 euros d'amende, Jean-Sébastien Lefebvre.
C'est pas beaucoup, mais après, comme dit Monsieur Rollin, c'est pas possible d'aller beaucoup plus loin que la sanction financière. Mais il y a un exemple qui est assez facile à utiliser pour voir ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. C'est le cas du Front National. Marine Le Pen, son immunité parlementaire a été levée par les députés pour ses propos sur l'occupation, où elle a comparé les prières de rue à l'occupation. Les députés ont voté sa levée d'immunité. Par contre, pour Monsieur Philippot, qui était aussi traîné en justice pour ses propos sur le Qatar, qui a dit que c'était une dictature, je crois, quelque chose comme ça, les députés européens ont dit, là, pour le coup, c'est pas quelque chose d'infamant, c'est pas injurieux. Les députés européens ont dit, on garde l'immunité de Monsieur Philippot. Donc, finalement, il y a déjà des règles qui permettent de dire jusqu'où on peut aller et là où il faut pas franchir les...
Manuel Abramovitch, comment on résiste?
Moi, je pense qu'une des premières choses, c'est continuer à s'informer, à être informé. C'est l'objectif de résistance.be, c'est de continuer comme d'autres médias et ou des journalistes en travaillant dans la presse, dans la grande presse qui sont spécialistes de l'extrême droite. C'est continuer à marteler avec des preuves à l'appui, avec un travail d'investigation que s'ils ont parfois changé. Hein, alors on voit Marine Le Pen effectivement qui a un nouveau discours qui va défendre la laïcité. Mais on sait très bien pourquoi, pour s'attaquer à une religion en particulier et derrière cette religion s'attaquer aux populations issues de ce qu'on appelle les populations immigrées arabo-musulmanes. Donc c'est systématiquement démontré qu'ils ont changé. Et s'ils ont changé, ils ont changé. Donc il y a des partis qui ont évolué parce qu'un personnel politique aussi a disparu. Ils sont devenus plus âgés. Ils ont quitté une nouvelle avant-garde, a repris le flambeau, s'est adapté. Mais donc ce travail d'information, ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, contrairement peut-être aux années 80, même aux années 2000, on avait une extrême droite qui se ressemblait. Et on disait, pour réussir, ils doivent effectivement troquer leur veste bombers de skinhead, de néo-nazis, en costume cravate, se déguiser en démocrate, rentrer dans les parlements, et effectivement adopter et rejeter notamment le discours, l'étiquette extrême droite. Marine Le Pen, d'ailleurs, a menacé les journalistes. Et heureusement, dans la presse, dans le monde, la presse a continué à l'appeler le Front National comme étant ce qu'il est, un parti d'extrême droite. Mais on a aussi aujourd'hui, et ça c'est la grande différence, des partis qui, il y a 20-30 ans, étaient des groupuscules d'action politique sur le terrain, de néo-nazis, hein, qui sont aujourd'hui élus. Et donc on voit effectivement ce personnage folklorique mais dangereux. Mais on voit aussi l'Aube Dorée, qui est un véritable parti néo-nazi, qui en France, c'est des groupuscules qu'on ne voit plus quasi plus dans la rue ou de temps en temps. Ils sont actifs quasi clandestinement. En Grèce, on a un parti qui est le troisième parti jusqu'à encore récemment et encore plus ou moins actuellement. Et Dieu sait le score qu'il pourrait faire aux prochaines élections, qui est un parti qui tourne quand même autour des 15 à 16% en Grèce, qui a 4 députés européens et qui est ouvertement néo-nazi. C'est pas juste du folklore, ce sont des gens qui ont des formations. Leurs élus, c'est des élus qui ont un certain âge, donc qui sont depuis plus de 20-30 ans et qui ont été formés au culte d'Adolf Hitler, de Rudolf Hess. C'est vraiment un journaliste grec a fait notamment une enquête d'investigation et l'a démontré par A plus B.
Comment maîtrise-t-on, comment gère-t-on ces énergumènes qui font des saluts nazis et qui profèrent des insanités dans l'hémicycle au Parlement européen? Voilà le thème de discussion de 500 millions d'Européens cette semaine. À tout de suite après une courte pause.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, 500 millions d'Européens, depuis le Parlement européen à Bruxelles.
On parle aujourd'hui des personnages extravagants, sulfureux du Parlement européen avec cette interview édifiante de ce Polonais, de la nouvelle droite polonaise, Janusz Korwin-Mikke, qui s'était rapproché tout un temps de Marine Le Pen au début du mandat de cette législature. Mais finalement, Marine Le Pen avait dit non, lui, il est beaucoup trop sulfureux pour nous. Ça va pas avec notre logique de dédiabolisation. Avec nous en studio, Claude Rollin, élu CDH belge, Manuel Abramovitch, spécialiste de l'extrême droite et auteur du site internet résistance.be, et Jean-Sébastien Lefebvre, notre complice habituel, correspondant de Contexte. Alors d'abord, on va écouter Jean-Marie Cavada, eurodéputé de l'ALDE, l'Alliance des libéraux et démocrates européens, pour voir ce qu'il a à nous dire. Il fait partie de la commission en charge du respect de l'éthique des eurodéputés.
Si nous sommes de vrais démocrates, nous sommes bien obligés d'accepter ce que les électeurs nous envoient. Et c'est certainement pas de gaieté de cœur que je dis ça. Et puis, il y a un point de vue moral qui s'oppose non pas à nous, mais à eux. Comment peuvent-ils accepter d'être, je dirais, entretenus, financés par une institution qu'ils veulent détruire? Est-ce qu'il n'y a pas un conflit moral? Eux qui parlent si souvent de morale, est-ce que ça ne leur, ça fait pas mal au ventre d'aller chercher l'argent du traître puisqu'on veut le tuer?
Voilà, là, il pointe du doigt une contradiction, Jean-Sébastien Lefebvre.
Il y a une contradiction, mais la contradiction, la réponse souvent de Marine Le Pen à ce sujet, parce qu'elle a attaqué là-dessus, c'est de dire « Oui, mais en même temps, je viens récupérer l'argent des Français, puisque les Français payent pour l'Union européenne, comme tous les Européens, il y a une contribution avec la TVA. Elle dit « Je viens récupérer l'argent des Français et il sera mieux utilisé si c'est moi qui viens le chercher que si c'est les affreux d'en face ».
D'accord. Claude Rollin, de notre côté, il n'y a pas que la sanction. Après, on parle de sanction, mais il n'y a pas que la sanction financière. Par exemple, il y a un eurodéputé d'aube dorée grec qui, lui, a été exclu de l'hémicycle il y a quelques semaines et qui n'a pas pu prendre part au vote.
Il peut être exclu. Donc, c'est la dernière des sanctions en termes de hiérarchie qui peut être donnée pendant un certain nombre de jours. Donc,
il avait traité
sanctions.
Les Turcs de chiens oui. sales et de barbares.
Et le président du Parlement a demandé son exclusion. On a même à certains moments des scènes qui peuvent paraître un peu cocasses, c'est-à-dire les huissiers sont chargés manu militari d'expulser le député qui contreviendrait de façon importante aux règles. Donc ça, c'est comme ça que ça se passe. Mais pour moi, la première méthode de lutte, c'est une lutte politique qu'on doit mener, c'est-à-dire en démontant ce discours d'extrême droite qui est un discours profondément pervers. Parlez de Marine Le Pen qui dit qu'elle récupère l'argent que les Français payent à l'Union européenne. Pourquoi n'est-elle pas très souvent là en séance? Pourquoi n'est-elle pas quand on travaille ici à Bruxelles en commission? Pourquoi, et c'est quand même quelque chose d'assez étonnant, pourquoi Madame Le Pen a la capacité de voter quand elle n'est pas présente dans l'Assemblée, tout simplement parce qu'elle trafique les votes? Elle ne fait rien, elle n'est pas là, elle laisse sa carte de vote, et ce sont ses voisins d'extrême droite.
Elle était très présente au Parlement européen jusqu'à la mise en place de son groupe politique, c'est ça en gros. Elle est venue, après son élection, elle est venue préparer la création de son groupe, et depuis...
Elle est présente quand il y a la plénière, quand il y a des caméras. Le Parlement européen, comme d'autres parlements, c'est d'abord un travail qui se fait en commission, où on travaille sur des textes, où on construit des compromis.
Manuel Abramovitch.
Mais on voit bien que l'extrême droite qui reste profondément liberticide, donc dont l'objectif est de supprimer les libertés individuelles et collectives des citoyens de leur pays nationaux, et puis au niveau européen, utilise les infrastructures, les assemblées démocratiques dans leur pays. On le voit en France avec les deux députés du Front National, on le voit en Belgique avec les derniers députés du Vlaams Belang au Parlement ou au Parlement flamand, on le voit ça dans d'autres pays où il y a des élus d'extrême droite. Ils utilisent les moyens qui leur sont donnés et pas uniquement par leurs électeurs, par l'ensemble des citoyens d'un pays et de l'Union européenne, pour mieux diffuser leur propagande, l'utiliser à des fins alors personnelles. C'est des partis, donc ils fonctionnent comme des partis. Mais on voit bien que ces lieux ne sont pas du tout pour transformer l'Europe. D'ailleurs, le parti, le Front National, comme beaucoup de partis d'extrême droite, sont des partis anti-européens, profondément anti-européens, qui veulent une Europe, même pas une Europe réduite à leur pays. Ils veulent juste effectivement vivre en dehors du cadre européen.
Dans le cadre de notre ami, entre guillemets, polonais, lui, il considère que sont nous, par exemple, les médias qui véhiculons une pensée unique. Lui se prévaut, il considère en fait que les gens qui regardent la télé sont des imbéciles parce qu'ils écoutent, donc on parle de vous en fait, qui nous écoutez ou qui nous regardez. Tout ça, ce sont des imbéciles parce que vous écoutez notre parole, celle que l'on prêche. Les gens intelligents, selon lui, ils sont sur Internet. Ce sont les gens informés qui savent ce qui se passe dans le monde. D'ailleurs, il dit que lui, en Pologne, il a 800 000 followers sur sa page Facebook. Enfin, il a 800 000 personnes qui le suivent. Alors que Donald Tusk, ancien Premier ministre polonais, lui, issu d'un parti traditionnel et qui est le président du Conseil européen, lui, il n'a que 80 000 followers sur Facebook. Donc, il dit, vous voyez bien que le peuple est avec moi. J'ai 10 fois plus de poids sur la toile que des grands apparatchiks, etc. Mais vous, messieurs, et nous tous, visiblement, on raconte que des bêtises. Je vous propose d'écouter à nouveau Janusz Korwin-Mikke.
You are crazy. You must understand.
Vous êtes fou. Vous devez comprendre. Vous, l'Union européenne est dirigée par des idiots.
Crazy.
C'est fou. Et évidemment, dans ce petit monde d'idiots, c'est normal que ça choque.
Voilà, dans notre petit monde d'idiots, les phrases normales, selon lui, donc les phrases normales, c'est que Hitler ne savait pas pour l'extermination des Juifs, ou que les femmes ne devraient pas avoir le droit de vote, ou bien que les migrants sont des déchets humains, ça nous choque et c'est parce qu'on est des idiots. Claude Rollin.
Oui, clairement, c'est ce discours. Alors, on est là face à un discours qui est un discours caricatural. Mais il ne faut pas oublier que ce discours banalise l'ensemble du discours de l'extrême droite, l'ensemble d'un discours qui est profondément antidémocratique. Et je pense qu'en la matière, un des outils que nous devons utiliser, c'est aussi le travail de mémoire, c'est-à-dire rappeler ce qui s'est passé, rappeler ce qu'a été le nazisme, rappeler ce qu'ont été les camps de concentration. Et je pense que ce travail-là est important parce que ces gens nous promettent ce type de société comme nous avons connu, notamment avec le nazisme.
Jean-Sébastien.
Ce que je voulais dire dans l'intervention de Korwin, bon, c'est caricatural, effectivement, parce que lui, c'est vraiment un concentré. Mais en fait, c'est une sorte de dénonciation du système. Ça veut dire qu'on le retrouve dans à peu près tous les mouvements d'extrême droite et dans tous les partis d'extrême droite, que ce soit l'ancienne extrême droite ou la nouvelle extrême droite avec Marine Le Pen ou M. Wilders aux Pays-Bas. Ça veut dire qu'en gros, le système est contrôlé par une élite qui est contre les intérêts du peuple et eux incarnent le peuple. Donc, ce qui fait qu'en fait, dans leur démarche et dans leur discours, ils ont pour objectif en partie de casser la confiance qu'il peut avoir entre les médias et les citoyens et à partir de là se poser en protecteur.
Ça, c'est une constante.
C'est une constante. Et c'est assez dangereux parce qu'en plus, aujourd'hui, dans des périodes assez troublées où il y a beaucoup de crises, où le monde change et de plus en plus complexe à comprendre pour les citoyens, il y a une défiance envers les médias qui parfois peut être justifiée par la façon dont travaillent les médias. Mais le résultat, c'est qu'au bout d'un moment, c'est un dialogue de sourds. C'est-à-dire que les médias peuvent essayer de faire ce qu'ils veulent, d'expliquer du mieux possible. Le citoyen en question, où la confiance est perdue, dira dans tous les cas, vous faites partie du système, vous faites partie d'une sorte de complot, les discours complotistes dont on a un peu parlé en France. Et à partir de là, tout, c'est la porte ouverte à n'importe quoi.
La porte ouverte à n'importe quoi, Manuel Abramovitch, du site internet résistance.be. La question qu'on se pose, c'est que ces gens-là, ils ont été élus. Donc il y a quand même des gens qui ont placé un bulletin dans l'urne, des Européens qui les envoient au Parlement européen pour défendre des idées. Certaines sont inacceptables, mais comme disait Jean-Marie Cavadas, si on est des démocrates, il faut bien qu'on les accepte. Et le Parlement européen, pour ça, se veut une maison aussi démocratique que possible, au point qu'un magazine suédois antiracisme a révélé que le Parlement européen avait alloué 400 000 euros à une fondation liée au Parti européen d'extrême droite Alliance pour la paix et la liberté, APF, et 200 000 euros à peu près supplémentaires qui seront utilisés là cet été pour financer une réunion néo-nazie à Stockholm. C'est n'importe quoi.
Mais c'est ce que, d'abord, ils utilisent, comme je le disais là tout de suite, les mécanismes ici de financement qui leur sont permis par cette démocratie qu'ils détestent et qu'ils veulent voir abattre. Donc, ce sont les profiteurs, c'est eux les profiteurs, contrairement à ce qu'ils disent, notamment pour les populations étrangères. Mais ils ont bien compris, ils ont aussi, il faut sortir de l'image d'Épinal qu'on a parfois des gens d'extrême droite qui sont des paumés, des gens pas trop doués. On a des gens qui ont fait des prix en études. On parlait de M. Philippot tout à l'heure. Il a fait l'ENA. C'est pas pour ça qu'il est nécessairement intelligent, mais en tout cas, lui, il prouve quand même que c'est un véritable stratège. Donc, ils connaissent très, très bien la législation européenne de leur propre pays. Et donc, ils l'utilisent. Mais par rapport justement à ce combat, moi, je pense effectivement ce travail de mémoire et ce travail, je pense, extrêmement nécessaire de non pas de politisation de la population, mais de l'information sur ce qu'est la politique. Je suis par ailleurs, mais c'est mon métier principal, enseignant en haute école. Je peux vous dire que des jeunes en Belgique, en tout cas, je pense que dans d'autres pays, ça doit être exactement le cas, le même cas, à 18-19 ans, ils ne savent pas ce que ça veut dire une majorité communale, par exemple, hein, ou municipale. Ils ne savent pas comment se fonctionnent les mécanismes. Mais je me rends compte que ces jeunes électeurs, en Belgique, en France et pour les élections européennes, ne connaissent même pas les enjeux
de politique. C'est ça, et pour rebondir sur ce que vous dites et ce que disait Claude Rollin à l'instant, alors ce genre d'études ne sont pas faites en France, par exemple, ou même en Belgique, mais les Britanniques aiment le faire, ce genre de sondage, savoir, par exemple, parmi les jeunes de 15-16 ans, combien connaissent Adolf Hitler, et c'était édifiant de voir le pourcentage, j'ai pas le chiffre en tête, mais de voir le pourcentage de jeunes de 15-16 ans qui pensent qu'Hitler était un personnage de fiction. On poursuit notre discussion à travers les coulisses de l'Europe et la revue de presse européenne. Nicolas Hurst et Eric Scholl vont nous rejoindre. Avec Nicolas Hurst, on parlera d'Alternative für Deutschland, AfD, dont un des membres, Markus Bretzel, a rejoint le groupe de Marine Le Pen récemment au Parlement européen. Tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus. Yann-Anthony Noguès.
Merci de nous retrouver à Bruxelles pour cette deuxième demi-heure de 500 millions d'Européens. Nous avons parlé des affreux, des extravagants du Parlement européen, ces élus d'extrême droite qui viennent faire n'importe quoi ici sous prétexte que, quelques personnes ont mis un bulletin dans l'urne avec leur nom dessus. Avec nous, pour nous accompagner, Claude Rollin, eurodéputé CDH belge. CDH, c'est Centre démocrate humaniste, membre de la famille PPE. Parti populaire européen, dans cette noble assemblée. Manuel Abramovitch du site résistance.be, spécialiste de l'extrême droite. Et Jean-Sébastien Lefebvre, correspondant de Contexte, spécialiste d'un peu tout. D'ailleurs, c'est le bon client par excellence. On peut parler sport, il a un avis.
Ouais,
on peut... Non, sport, non.
Bon,
sport, non. Nicolas Hurst est avec nous. Bonjour, Nicolas.
Bonjour.
Alors, vous êtes journaliste de Politico. Expliquez-nous de quoi allez-vous nous parler. Vous allez nous parler de l'AfD.
De l'AfD, c'est-à-dire le parti allemand qui s'appelle Alternative für Deutschland. En français, Alternative pour l'Allemagne ou un autre chemin pour l'Allemagne. Mmh. Donc, ce parti qui était fondé il y a 3 ans, à l'origine fondé comme un parti qui s'opposait virilement contre l'euro et le projet Eurozone, et qui a depuis viré de plus en plus vers la droite et vers des propos plus controversés, a tenu son congrès annuel récemment en Allemagne.
D'accord. Et donc, vous allez nous expliquer. Déjà, on va parler aussi du cas de Markus Bretzel, cet élu AfD qui a rejoint le groupe de Marine Le Pen ici au Parlement européen. Et puis, vous allez nous parler de la stratégie, finalement, de l'AfD pour conquérir le pouvoir. Vous l'avez dit, c'est un parti qui a 3 ans, qui, au départ, c'était surtout des... qui avait un certain vernis. C'était des universitaires. Ils parlaient d'économie. Et puis, maintenant, c'est devenu juste un parti raciste. Et puis avec Eric Scholl de Courrier International, on ira au Royaume-Uni, on ira en Roumanie, on ira en Suède et puis tiens aussi en Belgique. Demandez le programme de 500 millions d'Européens, les coulisses de l'Europe et la revue de presse européenne pour réagir. Hashtag 500ME.
BFM Business, avec 500 millions d'Européens, pénétrez dans les coulisses de l'Europe.
Alors, Alternative für Deutschland a célébré son congrès annuel il y a quelques jours. Vous nous disiez cela à l'instant, Nicolas Hurst. Qu'a-t-on dit de la décision de Markus Bretzel de rejoindre le groupe de Marine Le Pen au Parlement européen ?
Markus Bretzel, le parlementaire européen du Alternative für Deutschland, ici à Bruxelles, est monté sur la scène et a annoncé à ses confrères du parti qu'il pensait rejoindre le groupe de Marine Le Pen. Et la réponse, franchement, était, il semble, assez mixte. Il y a le Jörg Meuthen, qui est un des chefs du parti et un grand espoir dans la région du Baden-Württemberg, qui a donné une interview dans la presse peu de temps après en disant que ça n'allait pas se faire, que ce n'était pas une bonne idée. Parce qu'au sein du parti, il n'y a pas une vision unanime de ce qui est le parti. Il y a un parti qui a été fondé comme en opposition à l'eurozone il y a 3 ans. Et le parti a changé, beaucoup développé pendant ce temps. Mais il reste toujours dans le parti des membres qui sont membres, principalement pour des questions économiques. Il y a d'autres qui sont complètement opposés à l'Union européenne. Et après, maintenant, on voit dernièrement une virement qui va beaucoup plus vers l'anti-islam et la question identitaire.
Là, on parle que de 3 ans, mais c'est un peu, Jean-Sébastien, la trajectoire inverse du FN, qui est parti de questions purement migratoires et contre les immigrés, et qui essaye d'avoir maintenant un vrai programme économique.
On peut voir ça effectivement comme le chemin inverse du Front National. Après, c'est beaucoup plus rapide, concentré. C'est-à-dire qu'effectivement, en 3 ans, ce parti a fait éruption, est en train de transformer la scène politique nationale.
Ça, c'est l'effet crise.
C'est l'effet crise. Et en fait, ce parti qui, finalement, on disait 5-6% grand maximum, a trouvé une nouvelle vie avec la crise des réfugiés. C'est-à-dire que la crise des réfugiés en Allemagne, c'est pas du tout la même chose qu'en France. En France, on entend des partis crier à l'invasion, au grand remplacement ou autre. C'est-à-dire accueillir 30 000 réfugiés pour un pays de 65 millions d'habitants, ça doit pouvoir se gérer. L'Allemagne, avec ses 82 millions d'habitants, a accueilli 1,2 million de personnes. Donc, on a une vraie situation d'urgence. On a des stades qui sont remplis de tentes depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Donc, du coup, il a capitalisé là-dessus. Et le parti, c'est pour ça que, comme dit mon confrère, est en train d'évoluer. Anti-euro, ça marche plus tellement. La crise grecque, elle est un peu derrière, on n'en parle pas trop. Qu'est-ce qu'il faut utiliser? Et puis, donc, faut utiliser la peur de l'islam, la peur de l'autre. Et faut pas oublier le mouvement Pegida, qui sert de catalyseur aussi.
Manuel Abramovitch.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une nouvelle, ce qu'on peut appeler la nouvelle forme de la droite nationale, populaire ou populiste. Hein, on a vu ça depuis une vingtaine d'années, si pas plus, dans les pays scandinaves. Et notamment, par exemple, au Danemark, avec le Parti du Progrès et d'autres partis. Ici, on a un parti, effectivement, comme vous le rappelez, qui paraît, on dirait en France, poujadiste, hein, comprend le système et sur les questions monétaires, mais qui a été investi de l'intérieur par un courant, à la limite, comme à l'époque les trotskistes faisaient, c'est-à-dire faire de l'entrisme, donc aller dans des partis qui semblent être tolérables, qui ne sont pas néo-nazis, comme en Allemagne, le fameux NPD, qui a, comme malgré tout, un député ici au Parlement européen, mais qui est un parti néo-nazi qui existe depuis quasi, je crois, les années 50, 60, oui. Et qui n'a jamais réussi vraiment à émerger sur la scène politique allemande.
On l'a dit tout à l'heure en et début d'émission, voilà. Lors de sa campagne pour être élu, il s'appelle Voigt, c'est son nom, oui, ce député allemand, il avait des affiches avec lui sur une moto en appelant ses électeurs à mettre les gaz, voilà. Allusion à peine voilée à la Shoah.
Ils organisent aussi des conférences, notamment avec un négationniste anglais qui est venu ici à Bruxelles, qui est venu un peu partout en Europe à inviter. Donc effectivement, et là, c'est un parti en plus qui est un parti néo-nazi et qui s'appelle Parti National Démocratique Allemand. Donc qui utilise effectivement un vocable démocratique pour mieux avancer, un peu comme le cheval de Troie.
Alors Nicolas, quelle est la stratégie de l'AfD?
En 3 ans, le AfD a surpris l'opinion publique allemande ou les commentaires, parce qu'elle a réussi à capturer 13% de l'électorat allemand. Ça a beaucoup bousculé le système allemand qui est traditionnellement divisé entre les deux partis principaux. Et ce qui est intéressant, et ça montre un peu le bouillonnement et les contradictions au centre du AfD, c'est que une partie du parti veut capturer de plus en plus le vote conservateur dans le parti de Angela Merkel. Il y a une autre partie du AfD qui dit qu'ils ont des bonnes chances par rapport à l'électorat de gauche du SPD, qui est mécontent avec la globalisation, la mondialisation et d'autres mots économiques en Allemagne.
C'est le parti fourre-tout un peu.
Exactement, oui. Ça attaque l'établissement des deux côtés.
Donc en tout cas, l'analyse que vous faites dans Politico de la stratégie d'AfD pour conquérir le pouvoir, Jean-Sébastien disait qu'on les attendait à 5-6, finalement ils sont quand même déjà à 13%. Il y a la guerre contre les partis mainstream, il y a les 50 nuances de conservatisme pour convenir à tout le monde. L'ennemi numéro un, c'est l'islam, et puis stratégie commune à l'ensemble des partis extrémistes en Europe, franchir les lignes rouges. Alors j'allais dire commune. En Europe, en Belgique en fait, Claude Rollin, on ne voit pas tellement l'émergence, en tout cas en Belgique francophone, il n'y a pas vraiment de parti extrémiste.
Non, il n'y a pas... Allez, il y a une grande différence, en tous les cas en Belgique, entre le Nord et le Sud. Et donc, nous avons au Nord, depuis déjà malheureusement longtemps, un parti d'extrême droite et un autre parti qui est, je veux dire, dans une proximité relative, ou une partie en tous les cas, est dans une proximité avec l'extrême droite qui est au gouvernement aujourd'hui, qui est sur des thèses nationalistes très très à droite. C'est vrai que du côté francophone, on n'a pas cette émergence-là. Je pense d'une part parce qu'il n'y a pas eu l'apparition de leaders qui ont une capacité charismatique. Je pense aussi parce que nous avons des organisations sociales qui sont très très bien implantées dans la société et donc il y a en permanence une relation entre les gens et les institutions. L'extrême droite joue sa croissance sur les colères des gens. Et quand vous avez de l'intermédiation sociale dans la société, ces colères peuvent s'exprimer autrement, peuvent s'orienter autrement.
Dans une autre vie, vous étiez quoi, Claude Rollin ?
J'étais syndicaliste, donc je connais bien ce travail.
Voilà, tout de suite la revue de presse européenne.
BFM Business, 500 millions d'Européens, la revue de presse.
Bonjour Éric Scholl.
Bonjour Yann-Anthony.
Merci d'être avec nous, Éric Scholl, directeur de la rédaction de Courrier International, président également de Reporters sans frontières. Les fonctionnaires britanniques jouent gros en cas de Brexit.
Oui, c'est le site d'information bruxellois EU Observer qui nous raconte, vous voyez, qu'est-ce qui va se passer pour tous ces fonctionnaires britanniques qui sont nombreux, hein. Il y en a 1200 à la Commission, et puis vous rajoutez les quelques centaines entre le Parlement européen, le Conseil, plus tous les contrats temporaires. Eh bien, en cas de Brexit, il y a beaucoup d'interrogations, en particulier sur les différents articles, l'article 49 du Code qui réglemente le personnel européen. Et selon cet article 49, eh bien, ils pourraient être forcés de quitter leur poste, car ils ne rempliraient plus alors les critères d'éligibilité établis à l'article 28A. Oui, on est en pleine Europe, hein. Selon lequel il faut évidemment avoir la nationalité d'un pays de l'Union. Ça serait plus le cas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'ils doivent partir?
Jean-Sébastien.
Alors, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas parce que demain, imaginons que les Britanniques disent nous partons, qu'ils devront partir les députés aussi vite, parce que la négociation après va reprendre pour savoir à quelles conditions le Royaume-Uni part. Donc beaucoup disent, le temps que la négociation se fasse, on est déjà en 2016, il se peut que les députés aient le temps de finir leur mandat, et pour ce qui concerne les fonctionnaires, faut pas oublier qu'il n'est pas possible non plus de revoir un contrat, c'est-à-dire que la rétroactivité n'est pas possible en disant, ah vous avez plus la nationalité alors que vous l'aviez avant, etc., qu'il faut, etc. Donc du coup, c'est par exemple le cas pour quelques fonctionnaires norvégiens à la Commission européenne qui sont toujours là parce qu'à une époque, la Norvège devait rentrer dans l'Union européenne. Donc on leur a fait passer les concours, on les a pris. Au dernier moment, les Norvégiens ont dit « Nous ne voulons pas rentrer dans l'Union européenne », mais sauf que la Commission n'a pas licencié ces personnes et ils sont encore aujourd'hui à la Commission. Alors c'est difficile de progresser, ils ne peuvent pas atteindre les hauts postes, mais ils sont toujours fonctionnaires.
Voilà, en tout cas, le divorce pourrait prendre 2, 3, 4 ans, ça pourrait être compliqué. Okay. Royaume-Uni toujours, Eric, antisémitisme, le parti travailliste dans la tourmente. Expliquez-nous ça.
Oui, on en a beaucoup parlé ces derniers jours avec ces problèmes effectivement d'antisémitisme, ces sorties, et puis finalement des suspensions de membres et du Labour. Et la difficulté de Jeremy Corbyn, donc le leader du parti travailliste, va finalement réagir suffisamment à temps. Alors le Guardian lui pique un coup de gueule en expliquant, le Labour et la gauche ont un problème effectivement avec l'antisémitisme, en expliquant que le phénomène va bien au-delà des suspensions, hein, des expulsions qui ont été faites. C'est un véritable problème qui s'appelle notamment Jeremy Corbyn, qui lui concentre finalement toutes les critiques, explique le Guardian. Le parti est malade, et au passage il rappelle quand même que Corbyn n'a pas toujours été très clair, puisque il a longtemps, dans le passé, été soutien d'un groupe pro-palestinien qui avait été fondé par un certain Paul Eisen. Paul Eisen, un personnage très particulier, puisqu'un négationniste de la Shoah, avec lequel s'est affiché encore en 2013 Jeremy Corbyn. Voilà, c'est pas très reluisant pour le parti travailliste.
Bon, pas très reluisant pour le parti travailliste, Nicolas Hurst de Politico.
Oui, c'est vrai que la position de Jeremy Corbyn a été dans le passé assez ambiguë sur certaines de ces questions, mais aussi ce que ça rappelle tout cet épisode, c'est que il y a de plus en plus de questions autour de la capacité de Jeremy Corbyn de contrôler Labour, de mettre la main dessus et de vraiment être le, le leader du parti d'avoir les parlementaires derrière lui.
Manuel Abramovic ou Claude Rollin, là-dessus, sur le Labour ?
Et sur le Labour, je ne sais pas, mais en tous les cas, ce que je vois en tous les cas, c'est qu'au niveau britannique, on a une recomposition de la gauche travailliste qui est en train de se faire. L'élection était une élection quand même très compliquée à ce moment-là, donc c'est difficile de voir aujourd'hui comment le Labour va se positionner in fine.
Roumanie, Eric, télévision, la Roumanie privée d'Eurovision.
Oh. Ils n'ont pas de chance, les Roumains ne pourront pas écouter leur star Ovidiu Anton qui devait se produire à Stockholm pour l'Eurovision. Et malheureusement, eh bien, la chaîne roumaine, la TVR, la télé publique, eh bien, n'a pas payé. Vous savez, elle a une des gros arriérés, elle a une dette de plus de 10 millions d'euros. Elle n'a pas payé ses dettes à l'Union Européenne de Radio-Télévision. Et c'est une première, nous raconte le quotidien Adevaru, le quotidien de Bucarest. C'est une première. La Roumanie s'est fait exclure. Et donc, eh bien, on ne pourra pas écouter le Moment of Silence. Ce sera un grand moment de silence puisqu'on n'aura pas la chanson de la star roumaine qui devait chanter devant 200 millions de téléspectateurs quand même. Hein.
200 millions. Jean-Sébastien, vous n'allez pas pouvoir mettre votre petit t-shirt moulant et aller à l'Eurovision.
Non, non, mais pour l'anecdote, en fait, la France est toujours qualifiée à l'Eurovision et à la finale, la partie télévisée, justement parce qu'elle paye. C'est ça la particularité. On finit toujours dernier, mais on paye pour finir dernier. Parce qu'en fait, il y a quelques pays qui donnent plus d'argent que les autres pour l'organisation de l'Eurovision, dont la France, ce qui nous permet d'éviter les phases qualificative. Donc du coup, à l'inverse de la Roumanie, voilà, nous on paye pour souffrir.
Bon, on paye pour souffrir et les Suédois, ils en ont marre de souffrir de ce que leur impose l'Union européenne, visiblement, Eric.
Oui, c'est le quotidien suédois Svenska Dagbladet qui nous raconte que effectivement, les Suédois ont un petit vague à l'âme. Le soutien de l'Union européenne s'est fortement réduit au cours des 6 derniers mois, puisque à l'automne dernier, il y avait encore 59% des Suédois qui estimaient que faire partie de l'Union européenne, c'était plutôt une bonne chose. Eh bien, ils ne sont plus aujourd'hui que 39%. Vous voyez la rapidité de la baisse de ce sentiment d'appartenance à l'Europe. Il faut rappeler, c'est ce que fait évidemment le quotidien, que la Suède est un peu aux premières loges sur la crise de réfugiés, puisqu'elle a accueilli 160 000 demandeurs d'asile. Alors, c'est évidemment beaucoup moins qu'en Allemagne, mais si on rapporte ce nombre de réfugiés proportionnellement à la population suédoise, c'est évidemment très important. Et on voit qu'il y a un gros débat, et un débat évidemment qui rejaillit sur le sentiment européen.
Sébastien Lefebvre.
Il faut voir, c'est que cette baisse de popularité de l'Union européenne en Suède s'accompagne aussi d'une hausse dans les sondages du parti d'extrême droite, pour revenir à notre sujet de départ, qui s'appelle les démocrates suédois, SD, qui était quasiment inexistant il y a 6-7 ans, qui a fait son entrée au Parlement suédois en 2010, aux législatives, et qui aujourd'hui pourrait devenir, en cas d'élection, peut-être le premier ou la deuxième force politique du pays. Donc on assiste aussi, sous le coup de la crise des réfugiés, pas de crise de la zone euro, parce que la Suède n'a pas l'euro, n'a pas vécu, à une recomposition du paysage politique suédois. Les schémas de post-deuxième guerre mondiale sont aussi en train d'évoluer.
Voilà, les extrémistes sont partout en Europe, y compris au Parlement européen. J'espère qu'on ne vous a pas trop choqué avec cette interview de ce député de la nouvelle droite polonaise, mais c'est intéressant de voir ces énergumènes qui agissent ici, et on voit bien que les eurodéputés essayent de lutter, que ce soit politiquement, comme le disait Claude Rollin, face à leurs idées, ou bien tout simplement en les excluant ou en leur infligeant des amendes. Merci beaucoup Éric Scholl, patron de la rédaction de Courrier International, pour cette nouvelle revue de presse. Merci Nicolas Hurst de Politico pour vos coulisses de l'Europe. Merci beaucoup Claude Rollin, eurodéputé CDH belge, centre démocrate humaniste. Et merci Manuel Abramovic de Résistance.be, spécialiste de l'extrême droite. Et merci Jean-Sébastien Lefebvre de Contexte. On l'a entendu à nouveau, spécialiste de tout. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 500 millions d'Européens. D'ici là, excellente fin de week-end à tous. À l'écoute de BFM Business.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs.